Vous écoutez On lit pour vous.
Itinérance au féminin, de parfaite battante. Un texte de Jessica Nadeau, paru le 20 janvier 2026 dans Le Devoir. Ton voisin qui vit dehors, c'est quand même ton voisin, dit un graffiti qui touche Annie droit au cœur. Ta voisine aussi, pourrait ajouter Annie et la joyeuse bande des parfaites. Un collectif de femmes ayant vécu dans la rue qui, depuis 2015, sensibilise le public à la réalité de l'itinérance au féminin. Moi, des fois, j'avais l'impression que je n'avais pas le droit de vivre en tant qu'itinérante, me dit Annie. Aux passants qui détournent le regard, elle a envie de dire « Arrêtez de tourner la tête quand vous voyez des personnes en situation d'itinérance. Peut-être dire bonjour, peut-être sourire, peut-être offrir une cigarette, offrir un café. Ça peut faire une différence dans la vie de quelqu'un. Le simple fait de se sentir humain dans le regard de l'autre, ça change tout », rappelle-t'elle. J'ai eu la chance de rencontrer cette semaine Annie, Sylvie, Chantal et Lily. Ce sont quatre femmes du collectif des Parfaites. Ce fabuleux comité est né d'un projet de recherche participative de la regrettée professeure de l'Université de Montréal, Céline Bello, en collaboration avec sa collègue Yacinthe Rivard. L'idée de départ était de rendre visibles des expériences d'itinérance au féminin, souvent invisibles. Pour y arriver, les chercheuses ont donné une voix à des femmes qui, fortes de leur expérience de vie et de survie, possèdent une expertise qu'aucun diplôme universitaire ne permet d'accoter. Annie a entendu parler de ce projet à la Rue des Femmes, l'organisme qu'elle fréquentait lorsqu'elle était sans abri. Au début, la Montréalaise, qui a eu une vie marquée par la violence conjugale et la toxicomanie, y a vu une simple façon de gagner un peu d'argent. Après, je me suis rendu compte qu'on écoutait vraiment ce que j'avais à dire. J'avais l'impression que ça avait un impact sur les gens autour de moi. On reconnaissait ma voix. Sylvie, qui est sortie de la rue il y a 30 ans et a vécu des problèmes de consommation assez « all-dressed », pour reprendre ses mots, renchérit. On me donnait l'opportunité d'aller dans ma voie, tout en me donnant une voix. Ensemble, on a fait des miracles. À titre de co-chercheuse, les Parfaites ont fait entendre leur histoire dans plusieurs colloques et rencontres. Elles ont participé à l'ouvrage « Penser l'itinérance au féminin », presse de l'Université du Québec. En 2022, avec le soutien de Céline Bello qui avait déplacé des montagnes pour réaliser ce projet ambitieux, elles se sont rendues en Belgique pour un congrès réunissant des professionnels de l'intervention sociale de la francophonie. Elles y ont présenté un jeu de type « serpent et échelle » créé afin d'illustrer les obstacles dans leur parcours. Un parcours où l'on croise beaucoup de serpents et trop peu d'échelles. Il y a quelques années, lorsque les Parfaites ont présenté leur outil de sensibilisation à la ville de Montréal, elles ont ému aux larmes ceux qui se sont prêtés au jeu. Qu'ont-elles le présenter à l'équipe de la nouvelle mairesse Soraya Martinez-Ferrada? Rien n'est prévu encore, mais l'idée leur plaît. Ce serait cool, avis aux intéressés. Ce que veulent les Parfaites, c'est que l'émotion soit suivie d'action. C'est avec cet objectif en tête qu'elles ont participé aux travaux de l'Office de consultation publique de Montréal sur l'itinérance et la cohabitation sociale. Dans le rapport dévoilé l'été dernier, leurs voix sont citées. On y retrouve notamment des bribes de l'histoire de Chantal qui me raconte comment, à 50 ans, sa vie a basculé. Quelques jours avant son anniversaire, elle s'est retrouvée dans un centre d'hébergement pour femmes. De sa vie d'avant, il ne lui restait qu'un petit sac à dos. Et mes yeux pour pleurer, ajoute-t-elle. Parce qu'après 8 ans sur une liste pour une demande de HLM, je n'étais pas prioritaire. J'étais dans la rue, mais pas prioritaire. Les Parfaites ont tenu à dire en consultation à quel point, en l'absence de ressources suffisantes réservées aux femmes en situation d'itinérance, elles s'exposent à de multiples dangers. D'où l'urgence d'augmenter le nombre de lieux sécurisés pour les femmes et de mieux les accompagner. Lily ne comprend pas pourquoi on ne transforme pas davantage d'églises désertées en refuges. Les églises calvaires, elles servent à quoi? Il n'y a plus personne qui va à la messe. Préoccupée par le sentiment d'insécurité des femmes dans la rue, Annie souhaiterait qu'on leur offre gratuitement des cours d'autodéfense pour affronter la violence physique, mais surtout l'emprise psychologique qui commence bien avant les coups. Lily le dit souvent, on se fait violer, on se fait tuer, c'est terrible, mais c'est la vérité. De tels cours seraient tout aussi utiles pour les femmes vulnérables prises dans l'étau de la violence conjugale, ajoute Chantal. Il y a des femmes qui ne sont pas dans la rue, mais qui restent avec un conjoint parce qu'elles ne veulent justement pas se retrouver dans la rue. Annie fonde beaucoup d'espoir en Soraya Martinez-Ferrada, qui fait de la lutte contre l'itinérance une priorité. Elle est sensible aux personnes qui habitent la rue, j'ai hâte de voir. Moi, je suis une optimiste indécrottable. Mais si elle sent que les revendications des parfaites ont été bien accueillies par la ville, Lily est plus sceptique. J'ai l'impression que ça va aller sur une tablette. Elle avoue avoir été déçue d'entendre la mairesse dire à Tout le monde en parle qu'il y aura toujours de l'itinérance, comme si c'était une fatalité. Ça m'a jetée à terre. En revanche, elle aime bien son approche en matière de campement, les encadrer en collaboration avec des organismes communautaires plutôt que de les démanteler sans pouvoir offrir d'autres solutions, en espérant qu'elle fasse de quoi. Quoi qu'il en soit, si rien ne bouge, les parfaites et leurs alliés n'entendent pas baisser les bras. Avec la réalisatrice Anne-Céline Genevoix, qui prépare un documentaire dont elles sont les héroïnes, elles ont travaillé à un projet théâtral où elles imaginent leur propre gouvernement. Au printemps, elles se rendront à l'Assemblée nationale pour la première fois, à l'invitation de la députée solidaire Manon Massé, qui tient à faire résonner leur voix dans la maison du peuple. Peut-être que ça va faire bouger les choses, peut-être que non, dit Lily. Mais en tout cas, j'ai toujours de l'espoir au bout de la ligne. Parfaite est l'acronyme de Père aidante, de la rue à la recherche, au féminin, aide, témoignage et sensibilisation. La situation n'est pas propre à Montréal. L'Office de participation publique de Longueuil faisait le même constat mercredi. C'était « Itinérance au féminin, de parfaite battante », un texte de Jessica Nadeau, paru le 20 janvier 2026 dans Le Devoir.
Six mois plus tard, toujours peu de mandats pour le « Top Gun » de l'éducation. Un texte de Zachary Goudreau paru le 28 janvier 2026 dans Le Devoir. Six mois après l'arrivée de Lucien Maltais à la tête de l'Institut national d'excellence en éducation, INEE, le champ d'action de la Société d'État demeure bien limité, celle-ci tardant à former son conseil d'administration. Une situation que dénoncent des experts et deux parents qui se posent des questions sur l'efficacité de Québec dans ce dossier. Le 28 juillet 2025, l'ancien dirigeant du Centre de services scolaires CSS des Chênes à Drummondville est officiellement entré en fonction comme président-directeur général de l'INEE. Son salaire annuel s'élève à 209 651 $, indique l'Institut au Devoir. Créé dans le cadre d'une réforme menée par l'ancien ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, la Société d'État doit notamment servir à dresser une synthèse des connaissances scientifiques disponibles au Québec comme ailleurs concernant la réussite éducative et le bien-être des élèves. Elle pourra ainsi déterminer les meilleures pratiques pouvant inspirer nos écoles, mentionne la loi encadrant cet institut. Depuis, 9 personnes ont été transférées du Conseil supérieur de l'éducation à l'INEE en novembre 2025. Le Conseil d'administration de l'INEE, qui devra compter à terme 13 membres, n'en contient cependant actuellement que 2, soit Lucien Maltais et le président de cette instance, Pierre Collerette, qui a été nommé dernièrement par le Conseil des ministres. Ainsi, six mois après l'entrée en fonction de M. Maltais à sa tête, l'INEE fait du surplace, puisque les grandes décisions et les grands encadrements devront être adoptés par son conseil d'administration lorsque celui-ci aura été formé, confirme la conseillère aux communications de la Société d'État, Patricia Fauché. L'adoption d'un budget et d'un plan d'effectifs devra donc attendre. Normalement, une vingtaine de personnes seront embauchées après l'adoption du plan d'effectifs par le conseil d'administration. Pour le moment, aucune nouvelle embauche n'est prévue, poursuit Mme Fauché. Elle a toutefois bon espoir que la nomination des membres du CA s'effectuera au cours des prochaines semaines. Dès lors, nous pourrons démarrer officiellement nos activités et progressivement assumer nos fonctions, ajoute-t-elle. Entre-temps, les tâches menées par les employés actuels de l'INEE portent entre autres sur la mise en place de ces outils de communication, notamment sur les réseaux sociaux, de même que sur la préparation de l'accueil des membres du conseil d'administration, indique Patricia Fauché. Le temps presse, selon un expert. Or, le temps presse pour compléter la mise en branle de l'INEE qui est trop lente, selon le psychologue spécialisé dans l'aide aux élèves en difficulté, Égide Royer. Il y aurait intérêt à accélérer la mise en place du conseil d'administration pour que tout soit fonctionnel pour la prochaine rentrée scolaire, estime l'expert. Selon lui, il est essentiel que l'INEE analyse et soumette à Québec les pratiques exemplaires qui pourraient inspirer le réseau de l'éducation dans ses efforts pour s'attaquer, entre autres, à la violence dans les écoles et aux ruptures de scolarisation dont écopent plusieurs élèves. En clair, c'est urgent que l'INEE soit fonctionnel, et pas seulement fonctionnel pour faire des rapports, mais aussi pour répondre aux besoins du ministère, des centres de services scolaires, des organismes scolaires et des parents, sur une série d'enjeux, estime M. Royer. L'expert avait d'ailleurs été recommandé par l'Ordre des psychologues du Québec pour siéger au sein du conseil d'administration de l'INEE, confie-t-il au Devoir. Il n'a toutefois eu à ce jour aucun retour à cet effet, tout comme deux parents dont la candidature avait été soumise le printemps dernier par le regroupement des comités de parents autonomes du Québec, soit Marie-Pierre Bessette et Sylvain P. Caron. Est-ce que cet organisme-là peut fonctionner en ce moment? Peut-être, mais a-t-il quelconque légitimité sans conseil d'administration? J'ai de la misère à le croire, lance M. Caron, qui est membre comme parent du conseil d'administration du Centre de services scolaires de Montréal. Tant qu'il n'y a pas de conseil d'administration, il ne se passe pas mal rien à l'INEE, lance pour sa part Mme Bessette, qui déplore le silence radio entourant sa candidature au conseil d'administration de l'Institut, pour laquelle elle n'a même pas reçu d'accusé de réception. Pour moi, sincèrement, ça traduit un peu où se trouve l'INEE, ce nouvel organisme-là, dans la liste des priorités du gouvernement en place, lance pour sa part le professeur au département des fondements et pratiques en éducation de l'Université Laval, Olivier Lemieux, qui trouve lui aussi difficilement justifiable que Québec tarde autant à achever le lancement de l'INEE. La création de cet institut figurait pourtant parmi les priorités de l'ancien ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, aujourd'hui aspirant premier ministre du Québec. Des démarches sont en cours dans le but de procéder aux nominations des autres membres du conseil d'administration dans les meilleurs délais possibles. Le processus suit son cours, assure pour sa part le cabinet de la ministre de l'Éducation, Sonia Lebel. C'était, 6 mois plus tard, toujours peu de mandats pour le Top Gun de l'éducation, un texte de Zachary Goudreau paru le 28 janvier 2026 dans Le Devoir.
Institutions et commerce tentent un rapprochement avec les itinérants, un texte de Marco Fortier paru le 15 décembre 2025 dans Le Devoir. Dans le vaste espace public, à l'intérieur de la place des Arts, un homme somnole sur un banc, prostré, dans un silence inquiétant. Est-il inconscient, en surdose? 3 jeunes femmes portant un dossard bleu s'approchent et tentent de le réveiller. Elles le secouent doucement, puis un peu plus fort. « Monsieur! 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 » L'homme finit par se redresser, les cheveux ébouriffés, les traits tirés. Il pige un biscuit au chocolat dans le sac déchiré qui traîne sur son banc, prend une bouchée et s'essuie les lèvres. « Je m'étais endormi. J'ai mal dormi la nuit dernière », raconte l'homme à ses 3 anges gardiennes. Rabia Rachid, Lina Badi et Marie Wallen, âgées de 24 à 27 ans, sont intervenantes psychosociales dans une brigade de médiation de la Société de développement social, SDS. Ces équipes de patrouilleurs, créées en juin 2025, parcourent le quartier des spectacles au centre-ville de Montréal. Mission : favoriser la cohabitation entre les dizaines de personnes itinérantes du secteur et les gens dits « ordinaires », travailleurs, touristes, publics venus assister au spectacle. En cet après-midi glacial de décembre, l'homme endormi de la place des Arts a trouvé ici un banc au chaud. Les trois anges gardiennes de la brigade lui demandent comment elles peuvent l'aider. Voudriez-vous des bottes? Un manteau? Une tuque, des mitaines? On va vous en trouver dans les organismes du quartier. C'est sûr que oui, avec le temps qui fait dehors, répond l'homme de plus en plus éveillé. Il s'appelle Louis Jobin, il a 68 ans. Il est venu de Québec il y a 3 ans, après avoir été évincé de son logement et perdu peu après son emploi dans la livraison. D'une difficulté à l'autre, Louis Jobin a commencé à consommer toutes sortes de cochonneries pour engourdir son mal-être. Crystal meth, fentanyl. Il dort dehors, dans des refuges d'urgence ou dans des halles de chaleur. Une place au chaud. La bonne nouvelle, c'est que les Louis Jobin de ce monde peuvent désormais espérer une petite place à la chaleur durant la journée dans une des institutions du quartier des spectacles, Place des Arts, Complexe des Jardins, aire de restauration Le Central, ou même au Palais des Congrès, un peu plus loin. Jusqu'à récemment, les itinérants peinaient à se faire accepter dans ces lieux publics. La cohabitation était difficile entre les gens marginaux et le monde ordinaire. Chaque partenaire du quartier des spectacles gérait du mieux qu'il pouvait les situations de crise, chacun de son côté. On s'est dit qu'on pourrait se regrouper et s'entraider. Les personnes itinérantes font partie de notre réalité. On ne peut pas faire comme si elles n'étaient pas là, dit Marc Randol, directeur exécutif du partenariat du quartier des spectacles. On le rencontre à l'Esplanade, tranquille, un lieu emblématique du quartier, qui attire en tout temps des dizaines de personnes, y compris des itinérants. Le café où trône un foyer au gaz, au 2e étage, surplombe la patinoire baignée dans une musique du temps des fêtes. Préoccupée par l'ampleur de la crise de l'itinérance, la nouvelle mairesse de Montréal, Soraya Martinez-Ferrada, a lancé le mois dernier un appel à la mobilisation générale. Elle a invité les établissements et les commerçants à ouvrir leurs portes aux sans-abri, à leur permettre de se réchauffer et d'utiliser leurs toilettes. Tout le monde est gagnant. Dans le quartier des spectacles et dans le quartier latin, tout près de là, on n'a pas attendu le cri de ralliement de la mairesse pour tendre la main aux gens les plus vulnérables. C'était devenu une nécessité dans ce secteur, devenu l'épicentre de la crise de l'itinérance. La Société de développement social, un organisme à but non lucratif, a été appelée à la rescousse. La brigade de médiation sociale parcourt les établissements et les ruelles du secteur entre 7h30 et 23h, 7 jours sur 7, été comme hiver. L'initiative de 3,5 millions de dollars est financée par la ville, par le quartier des spectacles et par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Ces intervenants et intervenantes, comme celles qui ont aidé Louis Jobin à la Place des Arts, ont pour mission d'accompagner les personnes vulnérables, les aider à se faire une place dans les lieux publics et inviter les gens dits « normaux » à accepter ceux qui vivent dans la marge. Tout le monde est gagnant, estime Marc Randol. La présence de la brigade a fait diminuer le nombre d'incivilités, entre autres durant les festivals. Et les personnes vulnérables ont accès à des lieux d'où elles étaient exclues, notamment pour se réchauffer. Dans l'allée du crack. Nous continuons notre tournée du quartier avec les anges gardiennes, Rabia Rachid, Lina Badi et Marie Wallen. Nous voilà dans la rue Berger, surnommée l'allée du crack. Une demi-douzaine de jeunes flânent devant la porte de Cactus, organisme qui offre une supervision de la consommation de drogue pour prévenir les surdoses et le rejet de seringues dans les rues. Un des jeunes inhale sous nos yeux un mélange de crack et de fentanyl. Il fixe le vide, immobile, perdu dans son vertigineux voyage. Ne lui parlez pas. Il se sent bien en ce moment, dit un membre du groupe aux trois intervenantes, qui sont accueillies comme des amies. Elles offrent des tucs à ceux qui n'en ont pas. Merci, mais c'est d'un logement dont j'ai besoin, lance un jeune sur un ton indigné. Un peu plus loin, rue Sainte-Catherine, une jeune femme semble perdue, accotée contre un mur couvert de vomi. Elle accepte les chaussettes qu'on lui tend, tout en fouillant dans son sac à dos. Des passants, aux yeux hagards, saluent les trois intervenantes en marchant d'un pas hésitant sur le trottoir couvert de neige. On distribue des tucs et de la chaleur humaine. L'UQAM sur la ligne de front. Un peu plus tôt, 400 mètres plus à l'est, nous avions rencontré à son bureau Priscilla Ananian, vice-rectrice associée de l'Université du Québec à Montréal, UQAM, pour la relance du quartier latin. Vous avez bien lu. Le quartier a tellement besoin d'amour que l'UQAM a confié à cette professeure en urbanisme le mandat de contribuer au développement du secteur, durement frappé par l'itinérance depuis la pandémie. On est dans un quartier où il y a plein de personnes différentes. Il faut apprendre à vivre ensemble, résume-t-elle. L'UQAM offre une halte chaleur pour itinérants pour le troisième hiver d'affilée. Des intervenants de la SDS viennent dans un local de l'École des sciences de la gestion pour accueillir une cinquantaine de sans-abri, environ 20 nuits par hiver. Ils dorment sur des chaises et ont accès aux toilettes, à du café et à des gants. « On ne veut pas être une forteresse », dit Priscilla Ananian. « Environ 95% des toilettes du campus sont accessibles aux personnes itinérantes. » Le mot d'ordre est aussi d'accueillir ceux qui viennent se réchauffer dans les espaces communs, tant qu'ils respectent le code de conduite de l'établissement. On ne se couche pas par terre, on parle à voix basse et on s'abstient de consommer drogue et alcool. L'UQAM s'apprête aussi à participer à une brigade de médiation sociale comme celle du quartier des spectacles, avec la collaboration de la grande bibliothèque, voisine du campus, qui ouvre ses portes depuis longtemps aux personnes marginalisées. Comme le dit souvent la mairesse Soraya Martinez-Ferrada, les itinérants sont aussi des citoyens. Ils ont le droit à la dignité. C'était « Institutions et commerces tentent un rapprochement avec les itinérants », un texte de Marco Fortier, paru le 15 décembre 2025 dans Le Devoir.
L'un des plus grands icebergs du monde en voie de disparaître. Un texte de Sarah Collardy, paru le 13 janvier 2026 dans Le Devoir. L'un des plus grands icebergs du monde, le célèbre A23A, s'est vêtu d'une couleur bleue il y a quelques jours. Cette couleur serait le signe du début de sa disparition après 40 ans de dérive dans l'océan. Lorsqu'un des satellites de la NASA a capturé l'iceberg A23A le 26 décembre 2025, une vive couleur bleue était visible sur le dessus de l'iceberg. Le bleu correspond aux zones où l'eau s'est réchauffée et s'est accumulée dans les formations linéaires, les fissures de la glace, explique Walter Meyer, chercheur scientifique principal au Centre national de données sur la neige et la glace des États-Unis, en entrevue avec Le Devoir. Il précise que les motifs linéaires qui alternent entre bleu et blanc sont liés à des stries qui se sont créées lorsque le morceau de glace faisait encore partie de la calotte glaciaire antarctique il y a des centaines d'années. L'eau s'accumule ainsi dans les fissures pour s'écouler jusqu'au bord de la plateforme glaciaire, qui finit par se briser, précise l'expert. Cela indique clairement que l'iceberg est en train de fondre de manière notable et qu'il approche de la fin de son cycle de vie, où il se brisera complètement, affirme M. Meyer. L'iceberg A23A s'est détaché de la plateforme de glace de Filchner Run en Antarctique en 1986. Il était situé le long d'une fissure massive appelée le Grand Gouffre par les scientifiques qui l'ont remarqué pour la première fois dans les années 1950. Cette immense étendue de glace est connue pour être l'un des plus grands icebergs du monde et l'un des plus anciens jamais suivis par les scientifiques. Lors de son détachement en 1986, il s'étendait sur environ 4000 km², soit presque 10 fois l'île de Montréal. Au début du mois de janvier, sa superficie atteignait 1032 km², selon les données du Centre national des glaces des États-Unis, après avoir perdu plusieurs morceaux importants en juillet, en août et en septembre dernier. Proche de la fin. Pendant 30 ans, le méga iceberg est resté échoué au même endroit dans les eaux peu profondes de la mer de Weddell, en Antarctique. Rester plus de 30 ans au même endroit est assez inhabituel, et le fait qu'il ait survécu aussi longtemps est assez remarquable, avance M. Meyer. Depuis 2020, l'iceberg A23A se déplace au gré des courants de l'océan Austral. Il se déplace actuellement vers le nord-est, en direction de l'Atlantique Sud. Il approche à grands pas de la fin, déclare M. Meyer. Il continue à se briser en morceaux plus petits. L'expert en glacier estime que la fin de l'iceberg se compte en jours ou en semaines, et que dans tous les cas, il ne passera pas l'été. Sa fonte n'aura pas d'impact sur le niveau de la mer, puisque le glacier est déjà dans l'océan et l'a toujours été. Ce qui influe sur le niveau de la mer, c'est plutôt la fonte des glaciers terrestres. La vitesse de fonte des glaciers est un indice de l'évolution des changements climatiques. Selon une étude publiée en février 2025 dans la revue scientifique internationale Nature, jusqu'à la moitié des glaces mondiales pourraient s'évaporer d'ici 2100, en raison des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. C'était l'un des plus grands icebergs du monde en voie de disparaître. Un texte de Sarah Colardi, paru le 13 janvier 2026 dans Le Devoir.